Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre du Maroc, notamment, puisque c'était le thème, ce pays et ses habitants, chrétiens ou musulmans, des journées de l'Église universelle. Ces journées de l'Église universelle, comme chaque année, se trouvent au mois de mars. Elles commencent le 7 mars par la journée mondiale de prière. Et cette célébration œcuménique s'est vécue dans la salle de l'armée du salut. C'était les femmes des îles Cook qui ont préparé cette journée mondiale de prière cette année. Et elles avaient choisi comme parole celle-ci du psaume 139. « Merci, tu m'as créé merveille ». Et puis, donc, ces journées de l'Église universelle se poursuivent maintenant, donc, samedi 15 mars, et nous allons en parler un peu plus longuement, là, dans quelques minutes. Et puis, ensuite, elles continueront le 30 mars, au Temple de la Fraternité, où il y aura un culte présidé par le pasteur Jean-Luc Blanc, pasteur qui a été au Maroc. Avant cela, il y aura un bon couscous pour nos repas du jeudi, donc le jeudi 27 mars à midi, où, qui seront donc préparés par une équipe qui va nous régaler avec tout un menu oriental. Et puis pour finir, il y aura une conférence jeudi 3 avril à 18h à la Maison du Protestantisme, une conférence intitulée « Maroc, musulmans et chrétiens, quelques figures et points de rencontre ». Elle sera animée par le pasteur Redouane Esbanti et par le pasteur Jean-Luc Blanc en duo, ensemble. Ils nous parleront de l'histoire et de l'actualité de l'Église évangélique au Maroc notamment. Et donc, pour revenir un peu sur la journée du samedi 15 mars qui a été vécue par les enfants et des adultes, tous ensemble, de midi à 18h. Nous avons été invités à découvrir la vie des chrétiens et des chrétiennes au Maroc. Mais le voyage a commencé, ce voyage de découverte a commencé à la mosquée de Milo, où nous avons été reçus par l'imam de cette mosquée, par Driss El Moundi, qui fait partie du comité interreligieux, et par Mohamed El Madi Krabs, qui a servi de professeur à cette occasion-là. Il a répondu aux questions des enfants et de tous. Et nous avons pu avoir un échange avec eux sur la mosquée. Je vous propose d'écouter quelques interventions de cet après-midi. Et après-midi qui s'est poursuivi d'ailleurs ensuite au Temple du Mas des Abeilles, où il y a eu plusieurs ateliers qui ont été proposés aux enfants, découverte du pays, découverte de la boisson nationale, le thé à la menthe, avec une préparation, savoir comment on peut le confectionner. Et puis connaissance de l'église, des églises chrétiennes clandestines par l'intermédiaire de Taoufik, et puis des chants et de la calligraphie. Voilà, une journée donc très riche, un après-midi très riche et très occupée jusqu'à 18h, où il y a eu le culte, tous ensemble, adultes, adolescents, enfants, qui se sont retrouvés pour ce culte de clôture de cet après-midi. Et il était animé au niveau musical par le groupe Mélonyme. Voilà, maintenant je vous propose donc d'écouter Mohamed El Madi Krabs qui explique aux enfants le lieu où ils se trouvaient, donc à la mosquée de Milo. Et bien sûr, c'était en public, avec des enfants, avec des adultes. Il y a un petit peu de bruit, il y avait des questions, mais je vous en propose quelques-unes et quelques aspects pour vivre avec nous ce temps de rencontre avec les musulmans de cette mosquée. Et puis nous nous retrouvons après pour continuer et terminer cette émission.
Et les Européens en général ont adopté ce mot. D'accord ? Et en arabe, on dit mesjid. Mesjid, l'arabe c'est comme l'hébreu. Vous voyez, les juifs, ils ont une langue sémitique, c'est l'hébreu. Pour nous, notre langue, c'est l'arabe. C'est la langue du Coran. L'imam a lu quelques passages, c'est en arabe. Voilà. Et nous avons des prières, nous avons cinq prières. Vous voyez là, là c'est. En fait, vous voyez des horaires hein, de nos cinq prières. Il y a la première prière, c'est à quelle heure ?
La nuit.
C'est l'aube, la prière hein, de l'œufage, c'est l'aube à 5h46. La deuxième, on vient de faire cette prière tout à l'heure. Et puis, la troisième prière, c'est à 16h10. Et puis, la quatrième et la cinquième. Et en fait, les horaires varient, hein, durant toute l'année, c'est en fonction du soleil. Vous voyez ? Donc, on vérifie. Pour nous, nous avons la nuit et le soleil sont importants pour calculer. Hein. C'est un calcul, en fait, pour savoir l'heure exacte des prières. Et les juristes, ou les théologiens, ou les musulmans, ont précisé les horaires en fonction des saisons et en fonction des jours de nuit. Voilà. Et je pense que c'est la même chose pour les chrétiens et la même chose pour les juifs. Donc c'est rythmé en fait. Nos prières, nos pratiques sont rythmées. Et ce que vous voyez là, c'est Al-Kursi. Al-Kursi, ça veut dire la chaire. D'accord ? Et le rôle de la chaire, c'est pour donner, hein, des discours, pour enseigner, pour transmettre le savoir. Quand ce que vous avez quoi, l'oratoire ? C'est une sorte d'oratoire. Hein, vous avez, d'accord. Voilà, c'est pareil. Et il faut savoir que ce qu'on a là, on a en fait des points communs avec les autres cultes, avec les autres communautés. Parce que les Arabes n'avaient pas cela à l'époque. Nous l'avons emprunté aux autres communautés. Parce que c'est pratique, c'est utile, etc. Hein? Moi, de temps en temps, je me mets sur la chaire, sur le kursi, voilà, pour parler d'un verset, pour expliquer un verset, ou à parler d'une citation prophétique, etc. Ou bien, pour recevoir des questions. Parce que ce n'est pas évident, parfois on ne comprend pas des choses et on demande des explications. D'accord ? Et on demande ces explications à l'imam, ou à un théologien, ou à quelqu'un qui est compétent dans la religion, qui connaît les choses. Comme les pasteurs, comme les prêtres et comme les rabbins, pour les musulmans, nous avons les imams. Voilà. Ça, c'est un peu aussi. Et puis, vous avez le minbar. Est-ce que vous avez le minbar dans vos questionnaires, dans vos questions ? Minbar.
Oui.
Minbar.
Oui. D'accord. La question 8.
La question 8, d'accord. Le minbar, aussi, on peut traduire ça par aussi la chaire. C'est une chaire. D'accord ? Voilà. Et l'imam utilise le minbar une fois par semaine. C'est quel jour, à votre avis ?
Vendredi.
Voilà. Pour faire le serment. Le serment, ça veut dire un discours. Donc l'imam pense à un sujet qui intéresse les musulmans, qui intéresse la communauté. Et donc l'imam décide de traiter ce sujet. D'accord ? Et vous avez l'heure de la prière qui est précisée, hein, dans ce, voilà, cet écran, sur cet écran, à, voilà, midi 45. Donc, nous avons 5 prières chaque jour et une prière par semaine, c'est vendredi. Ce qui est écrit là, c'est l'arabe en fait. Hein? Là, c'est vendredi. Al-Jumma, vendredi. D'accord ? Voilà. Ensuite, l'imam peut recevoir des remarques après son discours, pas le jour même, mais pendant toute la semaine. Si quelqu'un n'a pas compris une expression, une citation, etc., donc la communauté peut solliciter l'imam de demander des explications à l'imam. D'accord ? Ensuite, l'imam, pourquoi on dit l'imam ? Est-ce que vous avez le mot imam dans vos questions ? Non ? Oui, pourtant c'est important. Le mot imam, imam c'est la personne qui dirige les prières. Vous voyez ? Imam vient de amama, ça veut dire devant. L'imam se place devant. Vous voyez ce petit tapis ? Là c'est la place de l'imam. Et les fidèles se mettent derrière l'imam. Ça veut dire que l'imam se met comme ça, hein, devant le Seigneur. Parce qu'il est dans l'imagination. Parce qu'il y a un Dieu. Il est invisible, mais il existe. Et donc, dans son esprit, il y a Dieu qui est devant. Et on se dirige vers un endroit. À votre avis, comment il s'appelle cet endroit? Pourquoi on ne fait pas, par exemple, le naissance des musulmans? Une partie se dirige vers ce côté, et puis une autre vers l'autre côté. Et pourquoi on choisit une seule direction? Hein?
Ils sont égaux?
Ils sont égaux?
Là-bas,
oui.
Oui, c'est la Mecque?
C'est la Mecque, exactement. C'est la Mecque. Ça veut dire que tous les musulmans sur Terre, tous les musulmans, sans exception, quand ils font leur prière, ils se dirigent vers la Mecque. Et comment on peut reconnaître la direction? C'est pas cette niche. Vous voyez? En arabe, on dit al-mihrab. Mira, le mira. Le mira, c'est une niche. Donc, quand quelqu'un rentre à la mosquée, c'est pas la peine d'utiliser la boussole ou le portable pour reconnaître la direction. Hein? Une fois on voit ça, hein, on sait que la direction, c'est par là. D'accord? Parce que n'importe qui peut rentrer à la mosquée pour prier. D'accord? Et aussi à la mosquée, il y a aussi les non-musulmans qui peuvent rentrer à la mosquée. Parce qu'on nous pose la question, est-ce qu'on a le droit de rentrer à la mosquée? Oui, on a le droit de rentrer à la mosquée. D'accord? Parce que c'est un lieu public. Et donc tout le monde a le droit de rentrer à la mosquée. Mais il faut respecter l'endroit, il faut, parce que c'est un endroit qui est sacré, comme le temple, comme la synagogue et l'église. Là, vous avez le Coran, quand le musulman ou la musulmane a envie de lire la parole de Dieu. C'est le Coran. Vous avez le Coran? C'est
oui,
cité?
Oui,
donc,
oui, c'est question 2.
Ok, c'est quoi le Coran, à votre avis?
C'est le livre codifié.
Oui, exactement, c'est le livre sacré. On dit le Saint-Coran, hein, ou le Noble-Coran, comme vous voulez. Soit le Saint-Coran ou le Noble-Coran. Pour nous, le Coran, c'est la parole de Dieu. Parce que le prophète Mohammed, pour nous, et on a l'habitude d'entendre Mahomet, le prophète a reçu la révélation. Est-ce que vous connaissez l'archange Gabriel? C'est qui est l'archange Gabriel? C'est qui? Hein? Vous devez connaître son histoire avec Marie, son histoire avec... Hein? C'est le messager du Seigneur. Donc, pareil pour nous, l'archange Gabriel a apporté la parole de Dieu à notre prophète qui s'appelle Mohammed, ou Mahomet. D'accord? Donc, l'ange Gabriel a apporté cette parole. Cette parole, on la trouve dans ce livre, c'est le Coran. Et c'est rédigé en arabe. D'accord? Vous avez déjà parlé avec les enfants sur l'arabien, l'hébreu?
Non, pas.
Non? Ok. Okay. Voilà. Donc, il y a des versets. Mais pour comprendre ces versets, nous avons besoin, hein, des spécialistes, des théologiens, des imams, qui sont capables d'expliquer, hein, le Coran. D'accord? Et pour les personnes qui ne s'expriment pas en arabe, qui ne comprennent pas l'arabe, il y a une traduction en français. Mais la traduction n'est pas parfaite. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours demander à l'imam, parce que c'est lui qui connaît vraiment le sens réel des choses. D'accord?
Dieu, il s'appelle Allah.
Allah. Ah oui, c'est une bonne question. Une très bonne question. Hein? Allah. D'abord, Allah. Ce n'est pas un mot arabe. Ce n'est pas un mot arabe. Allah. Il est devenu arabe après. Parce que le mot Allah existe avant le prophète Mohammed, avant notre prophète. Allah, ça vient de El, E-L. Et ça vient de Allah, c'est de l'aramien. Et l'aramien, c'est la langue de qui? De Jésus. Hein? Allah. Sauf que chez les chrétiens, et Jésus, il disait Allah, A, 2 L, A, H, A. Et les Arabes connaissent ce mot aussi. Sauf que chez les Arabes, c'est Allah, A, 2 L, A, H. D'accord? Et chez les Juifs aussi, il y a Elohim. C'est pareil. Donc Elohim, Allah, Allah, E, L, L, c'est pareil. Ça veut dire que nous avons le même Dieu. Et c'est pour ça qu'on a dans le Coran que tous les prophètes pour nous sont reconnus. D'accord? D'accord? Pour nous, les Arabes ou les musulmans, on a préféré garder le mot originel. On a préféré garder le mot Allah. Et on n'a pas voulu traduire par Dieu. Parce qu'on peut traduire Allah par Dieu. C'est possible. Sauf que c'est un choix pour nous. Comme chez les Juifs, par exemple, quand ils disent Elohim, ou bien Erechem. Rechem. Vous avez dit, nous serons Dieu. Rechem, hein, le clément, le miséricordieux, Rahamem, Rahman, Rahim.
Pourquoi les musulmans, je répète, enlèvent leurs chaussures pour entrer dans la mosquée?
Ah, d'accord, pour l'hygiène aussi, hein, pour la propreté. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, parce qu'on fait comme Moïse. Parce que Moïse a reçu l'ordre de Dieu d'enlever ses chaussures.
Les sandales,
oui. Ses sandales, exactement. Pour prier. Et nous avons inversé dans le Coran, فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. Enlève tes sandales parce que tu es dans une vallée sacrée. D'accord? Et donc le musulman, voilà, respecte cela. Mais ce n'est pas vraiment obligatoire parce que aussi on a le droit de prier avec ses chaussures. D'accord? Ce n'est pas vraiment une obligation. Voilà. Mais à la mosquée, c'est mieux d'enlever les chaussures.
Vous écoutez Radio Alliance Plus, vous êtes dans l'émission Dans nos communautés avec Christian Hervault au micro. Vous avez pu entendre les explications dans l'intervention de Mohamed El Mahdi Krapsch lors de la visite des enfants et des adolescents du catéchisme et de l'école biblique des églises protestantes unies de Nîmes. C'était dans le cadre des journées de l'Église universelle qui se proposait de faire connaissance avec les chrétiens et les musulmans du Maroc notamment. Et donc cet après-midi de découverte a commencé par la visite de la mosquée. Et puis ensuite vous avez entendu une musique traditionnelle arabe. Et maintenant, je vous propose de terminer cette émission avec quelques informations que je vous redonne concernant ces journées de l'Église universelle. Ne pas oublier que le 27 mars, il y a un repas oriental avec un couscous, jeudi à midi à la maison du protestantisme. Et puis, il y aura le 30 mars, le culte animé par le pasteur Jean-Luc Blanc, pasteur qui a vécu au Maroc. Et puis, pour terminer, une conférence jeudi 3 avril à 18h à la maison du protestantisme, une conférence à deux voix avec le pasteur Redouane Esbanti et le pasteur Jean-Luc Blanc. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à la semaine prochaine.